Seigneur, alors que nous ouvrons la Bible ensemble ce matin en communauté, je prie que tu continues de parler. Aide-nous à entendre ce que tu as à entendre. Aide-nous à discerner ce qui est important au milieu de toutes les voix qui peuvent venir de droite et de gauche. Seigneur, nous voulons recevoir ton cœur, ta parole, et que par ton esprit tu irrigues notre être entier pour être aligné, attentif à toi, ce matin, dans la semaine qui vient. Merci parce que tu es notre source. Amen. Ce matin, je lisais dans Jérémie 18 quelques versets qui sont en fait un moment où Jérémie, à l'écoute de Dieu, Dieu lui dit « Mais va chez le potier en bas de la rue et regarde ce qui se passe. » Jérémie se rend chez le potier et voit cet homme qui travaille sur son tour et qui prend de la terre pour former un vase. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, il voit le potier qui redétruit son vase finalement pour en faire un nouveau mieux, parce que le premier ne semblait pas correspondre à ce qu'il attendait. Et Dieu dit à Jérémie, tu vois, la nation d'Israël est comme cette argile dans mes mains. C'est moi qui la façonne, c'est moi qui la conduis. Et ça m'a encouragé ce matin, et je vous invite à nous laisser être cette argile dans les mains de Dieu, chacun de nous pour qui nous sommes, et en communauté, alors que nous avançons avec le Seigneur.
Luciane, elle a fait la traduction pour nos amis
qui viennent. Oui, j'ai entendu. Merci. Alors, j'espère que ça ira, parce que ce n'est pas si simple de traduire en direct. Mais voilà, bon courage Luciana, et bienvenue aux amis. J'ai vu que plus de 85 personnes ont vu le message que j'ai posté sur le WhatsApp du groupe des pasteurs, du mois des pasteurs. Donc plusieurs sont arrivés avec des bâtons, ceux qui ont oublié, j'espère que vous en trouverez dans le jardin au moment où ça sera important de la voir. Mais j'espère aussi que quelques-uns parmi ces 85 ont lu le texte d'Exode 17, en se demandant qu'allons-nous bien faire ce matin. Il y avait quelques-uns qui disent quand même. Donc je vais lire le début d'Exode 17, les 7 premiers versets. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple. » Et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Jusque-là. Exode 17, les versets 1 à 7. L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ? L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?
Oui !
Est-ce que le Seigneur est là ce matin avec nous, oui ou non ?
Oui !
Amen. Ne vous en faites pas, on pourra le répéter encore.
Oui.
Dieu est là avec nous. Aujourd'hui, il était là hier. Et sa promesse est qu'il est là avec nous aussi demain. Dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons les uns et les autres. Et le peuple d'Israël avait cette question, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est là? Le début du texte que j'ai lu souligne que l'Éternel a ordonné certaines étapes au peuple d'Israël. Donc ils sont arrivés dans une étape que Dieu avait ordonnée. Ils avaient traversé, puis auparavant, la mer Rouge, puis ensuite il y a eu deux, trois étapes, et là, voilà, c'est la troisième ou la quatrième, et ils arrivent dans cet endroit qui s'appelle Réphidim. Est-ce que Dieu savait que, en tout cas, a priori, il n'y avait pas d'eau? Oui, sinon pourquoi les aurait-il amenés là? Enfin, il savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais il savait aussi ce qui pouvait se passer. Et c'est intéressant de voir que le peuple, qui avait déjà été conduit par Dieu au travers d'un certain nombre de miracles, arrive dans un nouvel endroit, et puis il meurt de soif. Alors on comprend bien, hein, il n'y a pas besoin d'être très longtemps au soleil sans avoir rien à boire pour se dire, il fait très soif, j'ai besoin d'eau. Mais le peuple ne regarde pas à Dieu, il se plaint tout de suite et il murmure. Pourtant, ils sont conduits par Dieu. Alors nous qui sommes assis ici, qui avons bu ce matin, c'est facile à répondre, mais il suffit de s'adresser à Dieu. Et Dieu va trouver une solution. Et d'ailleurs, si on lit les textes précédents, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils ont quitté la mer Rouge pour rentrer dans le désert, Dieu les conduit dans un endroit où ils ont soif, et Dieu transforme l'eau salée en eau bonne. Et un peu plus tard, il les conduit dans un autre endroit, ils ont faim, et Dieu envoie de la manne. Puis ensuite, il envoie même des cailles. Et puis là, Dieu les conduit dans un nouvel endroit où il manque de l'eau. Ça semble assez logique de se dire, mais Seigneur, bien, aide-nous, on ne sait pas comment on va faire, mais on a besoin de toi. Que font-ils? Ils se plaignent. Que font-ils d'autre?
Ils se plaignent.
Ils murmurent. Le mot murmure est important dans ce texte, comme dans tout le reste de l'Exode. Le peuple murmure. Le peuple se plaint. Et ils veulent même retourner en Égypte, où soi-disant la vie était meilleure. Mais ils étaient esclaves. Ils avaient beaucoup de soucis, ils avaient beaucoup de problèmes. Ils voulaient qu'une chose, c'était fuir l'Égypte. Le peuple murmure. Est-ce que tu te plains? Ou est-ce que tu murmures dans ta vie aujourd'hui? Parce que c'est très vite fait de se plaindre pour le travail, pour les collègues, pour les beaux-enfants, pour les petits-enfants, pour les enfants, pour les parents, pour l'Église. C'est tellement vite fait. Et j'en entends des murmures. Parfois aussi dans mon cœur. Et c'est important de faire attention. Et ce matin, Dieu dit, mais faites attention. Regardez ce peuple, ils murmurent et ils ont failli y passer finalement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas appris. Et ils vont continuer à murmurer. Et finalement, à cause du murmure, ils vont passer 40 ans dans le désert au lieu d'à peine une année. Parce qu'au moment où il y avait une opportunité d'entrer dans le pays promis, ils ont murmuré par rapport aux géants qui étaient là, au lieu de s'attendre à ce que Dieu les délivrerait de ces géants. Et ils ne sont pas entrés dans le pays promis, et ils ont erré pendant 40 ans, 39 ans. Faites attention, mes amis. Ne murmurez pas, mais adressez-vous à Dieu. Dévoilez votre cœur à Dieu, parce que vous êtes là, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai de la peine, Seigneur, aide-moi. Dieu ordonne des étapes, et il connaît où nous allons, et il sait comment nous aider, nous donner un coup de main. Pour des étapes de vie importantes, mais parfois pour des choses beaucoup plus petites, entre guillemets. Au début du mois, j'ai commencé ma nouvelle mission au grain de blé. Et les trois premiers jours, je les ai passés à Balègue, donc un petit village au nord de Lausanne, un petit peu en altitude, il faisait plus froid qu'ici. C'était cette semaine où il faisait très froid. Et j'ai dormi deux jours chez ma sœur qui habite dans cet endroit. Et la voiture est restée dehors et il faisait moins de 11 pour la pluie. Puis le jour, ça ne montait pas beaucoup plus. Et le deuxième matin, Quand je suis allé prendre ma voiture pour me rendre à Juva-Rosalie, qui est à 2 km du village, l'endroit où je travaille, eh bien, la voiture n'a pas démarré. La batterie était à plein. Elle n'a pas supporté deux nuits à moins 11. Je me disais, ben c'est malin ça. Je suis coincé là, c'était 8 heures le matin, il faisait moins je ne sais pas combien. La voiture ne fonctionne pas. Marcher, j'aurais pu, c'était 20 minutes, mais j'ai quand même besoin de la voiture de toute façon après dans la journée pour rentrer. Et je me dis, ah mais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Là, c'est dans ces moments-là, est-ce qu'on se plaint de cette voiture qui ne va pas ? Mais c'est la première fois qu'elle me faisait une crasse comme ça. Et puis c'est malin, ça arrive aujourd'hui, c'est le troisième jour, je demande au travail, il faut que j'appelle ce collègue et lui dire que j'ai besoin de lui pour dépanner ma voiture. Ça ne fait pas très bien quand même, ça ne fait pas sérieux. Et puis en plus, je suis dans un village où j'ai grandi et je sais ce qu'on dit des gens qui ont des plaques genevoises. Ces gens de la ville, ils ne sont pas bien équipés pour l'hiver. J'en ai entendu quand j'étais enfant. Vous voyez tout ce qui peut remonter dans quelques instants. Et Dieu m'a conduit là. J'ai appelé ce collègue et il m'a dit « Ah, mais j'arrive !» Il a pris sa voiture, 5 minutes après, il était là, avec des câbles, on a branché les voitures, un peu après, il repartait. Et ce qui avait de bien, c'est qu'ensuite, quand on arrive à Juva-Rosalie, là où je travaille, il a un garage et il a une batterie, et toute la journée, il a chargé la batterie. Et je suis reparti sans souci, et jusqu'à maintenant, j'ai plus de soucis, alors il faut que je me veille quand même. Mais c'est comme si Dieu a pourvu d'une manière que je ne m'attendais pas, dans le sens où il n'y a pas juste des câbles pour faire repartir, puis à 5 heures, je me serais dit, on verra. La batterie était nickel, chargée, il n'y a plus de témoin qui s'est allumé. Dieu a pourvu. Un petit truc simple. Et j'aurais pu me plaindre pendant longtemps. Alors, déjà le texte de ce matin est une invitation à faire confiance à Dieu qui nous donne des étapes à vivre. Et quand on se trouve coincé et qu'on a soif et qu'on n'en peut plus, qu'on tire la langue, même à ce moment-là, regardons à Dieu plutôt que de trouver le responsable, que ce soit un objet ou une personne à côté de nous qui doit porter le chapeau de la situation. Et là, en l'occurrence, le peuple est prêt à lancer des pierres sur Moïse. Moïse dit encore un peu et ils vont me lancer des pierres. Je pense que, je ne sais pas s'il a vu des gens qui avaient des pierres dans les mains, où il sait, dans son contexte, un peu comme les histoires pouvaient parfois se terminer. Et il s'adresse à Dieu. Il crie à Dieu, à la place du peuple. Il dit sa peur d'être lapidé. Il l'a dit à Dieu, il dit « Aide-moi, aide-nous ». Et que se passe-t-il ? Dieu répond. Et il lui dit « Prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ton bâton, je vais revenir à ce bâton, le même que celui avec lequel tu as frappé la mer Rouge qui s'est écartée, et il sortira de l'eau. » Il reçoit une solution que lui-même n'aurait pas pu imaginer, qu'aucun dans le peuple n'aurait pu penser. Mais il y a un miracle qui va se passer, il frappe avec le bâton, et de l'eau sort du rocher. Je défie n'importe quel jeune homme de m'expliquer comment ça se passe. Ah, des jeunes hommes pourront expliquer comment parfois de l'eau peut sortir d'un rocher. Scientifiquement, on peut donner des explications. Mais que ça se passe au moment où on tape avec un bâton, c'est quoi un bâton par rapport à un rocher ? Ça va faire trembler le rocher, ce bâton. Mais par la puissance de Dieu, le rocher a tremblé et l'eau est sortie et tout le peuple a bu. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'est-il pas avec nous, oui ou non ? Le Seigneur a été avec le peuple d'Israël dans ce moment-là important. Nous sommes là ce matin, et vous l'avez entendu dans la petite vidéo que j'ai faite, pour prier pour le projet de construction. Nous sommes à une étape importante, et nous avons besoin de continuer de prier et de pouvoir comprendre comment Dieu nous conduit au milieu de ce temps. Pour ceux qui nous ont rejoints dans ces derniers mois, peut-être même une année, vous êtes peu ou pas au courant qu'il y a un projet de construction pour remplacer cette chapelle qui est devenue âgée et vétuste. On n'en parle pas tous les dimanches, parce que c'est un projet qui dure depuis longtemps, donc on ne peut pas se tenir en haleine tous les dimanches, mais tous les temps de temps, on en parle un peu et on parle des progrès de ce projet. Alors juste pour faire un résumé, pour mettre tout le monde à la même page, alors je ne vais pas donner tous les détails, ceux qui savent tous les détails ne m'en voulaient pas si j'oublie des choses. Mais on va dire que globalement, ce projet a débuté en 2016, lorsque le conseil, les responsables et la communauté de l'époque se posaient la question « qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment ?» Et sur la base de plusieurs considérations et de paroles prophétique aussi, il y a eu cet élan pour démarrer un projet, pour remplacer la chapelle actuelle, la démolir et construire un bâtiment avec l'église en bas et des appartements au-dessus. Et rapidement, il y a une demande qui a été faite à l'office des constructions, une demande préalable qui a été accordée. Et sur cette base-là, le projet a pu continuer. Ça, c'était en 2016. En 2019, les autorités, certaines autorités du canton, ont décidé de classer la chapelle, arguant que c'était un bâtiment magnifique d'une époque particulière qu'il fallait absolument le garder parce qu'il est magnifique. Voilà. Et puis, en 2019, la société immobilière de la paroisse de Carouge et la paroisse ont fait recours contre cette décision de classer ce bâtiment au patrimoine. Et il y a eu plusieurs mois d'attente pour avoir le résultat du jugement. Et pendant cette période-là, nous avons vécu en tant que communauté ce que nous avons appelé une opération Jéricho. Pendant une semaine, au mois d'octobre 2019, nous avons prié pendant 7 jours. Et le dernier jour, qui était un dimanche, nous avons tourné autour de la paroisse en priant, comme un acte symbolique pour débloquer ce moment, on va dire, au tribunal. Et plusieurs mois plus tard, le tribunal a jugé en notre faveur, a accepté notre recours, et du coup, la chapelle n'a pas été classée, ce qui nous permettait de continuer le projet. Et nous avons vu là la main de Dieu dans cette d'instant où nous étions coincés. Et puis, ensuite, il y a eu quelques années où le projet s'est développé avec l'architecte, et puis il faut contacter plein d'offices pour avoir des préavis favorables, pour le feu, pour la ventilation, pour toutes sortes de choses. Et puis en 2024, nous avons pu, la société immobilière a pu déposer une demande définitive de construction auprès du département. Et cette demande a été analysée pendant la fin 2024 et en mars 2025, il y a 10 mois, nous avons reçu la réponse du département des autorisations de construire du canton de Genève que nous n'avions pas le droit de construire le projet que nous envisageons. Donc ça a été refusé. Peu après, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire et pendant cette assemblée générale extraordinaire, la décision a été prise qu'en tant que société immobilière et paroisse, nous fassions un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de Genève. Et donc, depuis le mois de mai l'année dernière, il y a un recours qui est là auprès du tribunal. Et voilà, il y a eu différentes étapes et procédures qui fait que pendant, au début de cette année, on nous a dit, avant Pâques, vous devriez avoir une réponse. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, on s'est dit, on va prendre un temps et un culte pour prier de manière spécifique par rapport à ce projet. Et donc nous avons choisi, il y a déjà 2-3 mois que nous avons choisi cette date. Et j'ai préparé le message et je vous ai fait cette vidéo vendredi à 14h ou 15h avec cette optique de pouvoir prier ensemble pour ce projet et avec nos bâtons d'une certaine manière faire un acte de foi pour que Dieu nous donne, nous fasse grâce, notamment par rapport à ces délibérations au tribunal. Vendredi à 18h30, tous les membres du comité de la société immobilière dont je fais partie ont reçu un mail des avocats nous disant que le tribunal a décidé. Et malheureusement, le tribunal a rejeté notre recours. Et je me suis dit, ah bon? Comment c'est possible? Que faire? Que prêcher dimanche? Avec ce que je venais d'envoyer comme vidéo. Donc voilà, nous en sommes là. Puis en discutant, je me suis dit, non, mais je ne vais pas changer ce texte. Globalement, je prêche ce que j'avais prévu, mais avec cet élément en plus, qui nous fait réaliser que nous sommes peut-être encore plus coincés que ce que nous avions pensé. Nous sommes encore plus comme les Israélites, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, et qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Je discutais avec Christine, et elle me disait, mais ce texte est encore mieux maintenant, même avec cette nouvelle. Donc, nous sommes là et nous avons besoin de Dieu. Nous sommes là et nous avons des bâtons et nous allons comme faire ce geste pour demander à Dieu son aide et son soutien. Dans les jours qui viennent, il faudra discuter d'un certain nombre d'options possibles par rapport à ce refus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore discuté avec les avocats. Et donc, il y a des choses... J'ai lu le document de 33 pages qu'ils ont envoyé pour expliquer pourquoi ils refusent. C'est assez complexe. Il y a bien sûr tout le patrimoine qui ressort, et ça semble être un des éléments qui domine le fait qu'ils aient refusé, mais il faut encore voir un peu avec les avocats ce qui va se passer. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de... je ne peux pas en dire plus, et je ne veux pas en dire plus. Je veux simplement vous inviter à, devant Dieu, faire ce geste de foi et frapper le rocher. Quelles que soient les conclusions que vous êtes en train de faire dans vos têtes par rapport à ce que je viens de dire, je vous invite avec foi à prier. Je vous invite avec foi à sortir. Dans un moment, nous allons le faire. Et nous allons ensemble prier pour que Dieu nous conduise et nous aide dans l'endroit, dans l'étape où nous sommes arrivés. Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous, oui ou non?
Oui.
Amen. L'Éternel est au milieu de nous, il connaît cette situation et nous avons besoin de sa grâce et nous avons besoin de discerner qu'est-ce qui est à vivre et à faire maintenant. Mais c'est surtout en renouvelant, et je vois ce geste avec ce bâton, de renouveler notre foi en Dieu par rapport à là où nous en sommes arrivés. Nous avons vécu différentes étapes, avec différentes péripéties, nous avons vu Dieu nous conduire. Comment va-t-il le faire maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? Parce que ce n'est pas si simple de dire quel texte je vais prendre. Et en fait, Dieu a bien pavé le chemin d'une certaine manière. Parce que déjà, en automne dernier, je discutais avec Bedros, qui devait venir faire un culte ici. Puis, quand il est venu deux, trois jours avant le culte chez moi pour qu'on parle de ce qui allait se passer, il est venu avec un ami qui exerce un ministère à Colombo, au Sri Lanka. Et puis, cet ami était juste présent dans notre discussion avec Bedros. Moi, j'ai juste parlé, mais très brièvement, de la situation du bâtiment, parce qu'il m'a posé la question. Ce n'était pas l'objet de notre discussion principale. Et puis à la fin de ce temps avec Bedros et cet ami, on a prié ensemble pour le culte qui allait venir. Et à la fin, cet homme qui s'appelle Soudesh me dit « Mais j'ai reçu une parole pour vous et pour la communauté. Et j'ai reçu ce texte d'Exode 17. » Et Soudesh soulignait le fait d'utiliser le même bâton pour Moïse que celui qu'il avait utilisé pour taper sur la mer Rouge qui s'est séparée. Et il me disait, ben, réfléchis et parle avec les responsables de l'Église pour savoir comment vous pouvez vivre quelque chose par rapport à la construction avec ce texte. Effectivement, pourquoi le même bâton? Est-ce que pas n'importe quel bâton aurait fait l'affaire? Mais c'est intéressant de voir que dans tout ce que j'aurais pu être raconté dans les 7 versets que j'ai lus, ce détail-là apparaît. Et le lendemain, il y avait un temps de prière avec tous les pasteurs de la ville et on était ici, en fait, dans cette paroisse. Et Soudesh est venu aussi. Et à la fin, il me dit, « Ah, mais avec ma femme, on a encore prié pour vous, on a prié pour votre projet et j'aimerais te donner 100 dollars US comme une semence pour ce projet. » Et il m'a donné, enfin, il a dit pour Carouge. Et il a donné cette semence de 100 dollars comme un acte de foi de sa part, ne connaissant rien des tenants et des aboutissants de notre projet. Puis quelques jours après, lorsqu'on avait le conseil, moi j'ai partagé tout cela avec le conseil, on s'est dit, c'est quoi ce même bâton? Et pour moi, ce même bâton, c'est-à-dire, mais quelque chose qui s'est déjà passé, j'ai pensé à l'opération Jéricho, et on a parlé de l'opération Jéricho, et une des choses qui a été magnifique à l'opération Jéricho, c'est que le dimanche, on est sortis tous ensemble, jeunes et vieux, enfants et tous les âges, ensemble, pour prier. Et je crois que c'est ça, ce même bâton. Et tout à l'heure, les enfants vont descendre. Les ados qui sont partis un petit peu plus loin vont revenir. Et on va prier tous ensemble autour de ce bâtiment. Je crois qu'il y a un acte important à faire et à vivre en communauté pour prier et pour demander la grâce à Dieu. Vous saisissez ? Vous avez tous un bâton ? Non ? Et si jamais, quand vous sortez, il y a des bâtons qui traînent, vous pouvez à la limite prendre un... Il y a des bouts de bois, des bûches, hein, puis vous pouvez prendre ça aussi. L'idée, ce n'est pas d'abîmer le crépi, hein, l'idée, c'est de... c'est de simplement faire un geste de foi. Parce que vous voyez, ce qui est complètement fou, Moïse, qui est ce grand leader, qui fait appel à Dieu, Dieu ne lui donne pas une mission impossible. C'est peut-être même un petit peu ridicule. Prendre un bâton devant tout le monde, puis frapper sur le rocher, et avoir la foi que Dieu va donner de l'eau. Ce n'est pas difficile. C'est un geste simple que tout le monde peut faire. Et dans ce sens-là, nous vous invitons, le conseil et moi, à vivre ce geste simple, qui est à la portée de tous, comme un geste de foi que Dieu va pourvoir. Alors on ne sait pas comment. On ne sait pas quelle va être la solution suite à ce refus du recours. Mais nous croyons que Dieu nous accompagne, qu'il ne nous a pas lâchés. Nous croyons que de l'eau est encore appelée à couler de cet endroit. Alors oui, il y a de l'eau qui coule aujourd'hui, c'est une communauté vivante que nous formons. Mais par rapport à ce bâtiment, on sait qu'il y a des impossibilités à différents niveaux. Et le fait que ça soit refusé, ça ne simplifie pas beaucoup l'histoire, en fait. Il y a des impossibilités qui arrivent et qui sont là. Comment est-ce que Dieu va nous aider? Une des raisons qui semble être pertinente pour les départements et pour la justice de nous refuser ça, c'est le patrimoine. Ça veut dire qu'on veut garder les choses, on ne veut pas les bouger. En fait, on est en train de créer de cet endroit, en fin de compte, un musée. Un musée, ça peut être très bien. C'est très intéressant, les musées. Mais en tant que communauté, un musée, il n'y a plus de filles, il n'y a pas d'eau. Donc nous sommes appelés à prier pour que de cet endroit, l'eau continue de couler. Que l'eau vienne et qu'elle abreuve non seulement la communauté qui s'est réunie, mais ceux qui vont passer à côté, ceux qui pourront entendre encore le message de l'Évangile dans les années, dans les décennies, dans les 100 ans à venir. Cet endroit n'a pas été acheté juste pour 50 ans ou pour 100 ans. Dans la vision de ceux qui l'ont acheté, si on pouvait leur demander, pour eux, ben c'était pour que l'Église continue d'être là jusqu'à ce que Jésus revienne. Et nous voulons qu'il y ait une Église qui soit source de vie, source d'eau, jusqu'à ce que Jésus revienne. Après, oui, les moyens, il y a plein de questions qui se posent, évidemment. Et j'aimerais que l'on prie pour que d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les choses qui vont se passer, l'eau puisse continuer de couler de cet endroit. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller prier dehors ensemble et demander la grâce de Dieu sur cette situation dans laquelle nous sommes. Sidi a prêché au début de l'année, dans le premier dimanche, avec le texte d'Ézéchiel 47, qui est une histoire d'eau aussi. C'est ce texte où il y a le temple, et du temple, un fleuve sort. Et puis ce fleuve, il devient toujours de plus en plus important en descendant jusqu'à la mer Morte. Et à un moment donné, Sidi, en nous emmenant dans cette histoire, nous a dit, bien, dans l'eau, à un moment donné, il faut juste lâcher prise. Alors là, on ne doit pas lâcher prise parce qu'il y a trop d'eau, mais on doit lâcher prise parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est un peu une autre manière de vivre les choses, mais on doit lâcher prise devant Dieu et devant ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas. Mais nous voulons être là, debout, avec foi. Debout, devant Dieu, qui a soutenu le peuple d'Israël dans son pèlerinage au travers du désert pour l'amener jusqu'au pays promis, qui a soutenu l'Église avec un grand E depuis qu'elle a été mise en place par Christ et par les apôtres à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, avec plein de péripéties et plein de choses. À un moment donné, on pouvait croire que l'Église allait disparaître de plein d'endroits, elle continue de vivre. Et avec Dieu qui a soutenu spécifiquement la paroisse de Carouge depuis 1885 environ, au travers de plein de moments heureux et moins heureux qui permettent que nous sommes là aujourd'hui et que nous continuons d'avoir foi en Jésus. Alors oui, Dieu est là. Et nous voulons ainsi aller dehors avec tout le monde. Et ce qui va se passer, je vais encore prier après, peut-être aussi un petit peu aller chercher les enfants et dire à tout le monde de descendre. Je vous invite donc à prendre, à un moment donné, quand je vous dirai de sortir, prenez vos bâtons, allez, et on se met tout autour des murs de la paroisse. J'aimerais qu'il y ait vraiment des gens des quatre côtés, sur les quatre façades. Et puis on va ouvrir cette fenêtre à cette fenêtre, pour que il y ait un coup de départ qui soit donné, où on peut simplement frapper le mur et prier. Puis que l'on puisse prier et intercéder, que l'on puisse demander à Dieu la grâce, que l'on puisse se soumettre à Dieu, écouter, intercéder. Si vous n'avez pas exactement comment prier, ben, simplement louer Dieu. Si vous n'avez pas comment prier, priez en langue. Mais qu'on prenne un moment autour de cette paroisse et prier fort. Hein. Il n'y a pas besoin de chuchoter. Alors certains vont chuchoter, puis d'autres vont prier fort. Enfin, voilà. Mais soyez libres de prier et de demander à Dieu sa grâce dans cette situation où nous sommes arrivés. Et donc les fenêtres seront ouvertes, il y aura un coup de départ qui sera donné par la batterie. Et quand vous entendez la batterie, eh bien, frappez le mur et priez. Ça va comme ça? Et après un moment, on reviendra tous ici pour conclure le culte. Est-ce que c'est assez clair comme ça?
Oui.
Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés dans cette étape et nous avons besoin de toi. Nous sommes un peu comme les Israélites sans eau. Et nous voulons crier à toi comme Moïse l'a fait, en demandant ta grâce, en demandant ton aide. Et alors que nous allons prier ensemble, que tu nous conduises, Seigneur, le miracle vient de toi. Nous ne pouvons pas nous-mêmes trouver des explications, mais nous nous attendons à toi, nous mettons notre foi en toi ce matin. Merci pour les jeunes, pour les enfants, pour les gens de chaque génération. Et ensemble, nous voulons faire communauté dans ce que tu nous invites à vivre. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Amen.
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 Amen.